France Culture, le journal est présenté par Adrien Toffolet.
Bonjour à tous. Encore quelques heures avant de découvrir le nom de Vladimir Poutine comme vainqueur de la présidentielle en Russie. Aucun suspense, le maître du Kremlin, faute d'opposition libre, est assuré de l'emporter. Et puis la France Insoumise veut croire au rassemblement de la gauche derrière sa liste aux européennes. C'est le message passé hier lors du lancement officiel de sa campagne. Le Kremlin dénonce ce matin une nouvelle attaque de drones mortels imputée à l'Ukraine. Elle aurait provoqué un incendie dans une raffinerie dans la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, et aurait fait un mort. Ce type d'attaque se multiplie ces derniers jours dans les régions russes frontalières, alors que se déroule depuis vendredi l'élection présidentielle. Ce dimanche est le dernier jour de vote pour les quelques 112 millions de Russes qui connaissent déjà toutefois le nom du vainqueur, Vladimir Poutine, le maître incontesté du Kremlin. À 71 ans, va repartir pour un nouveau mandat de 6 ans à Moscou, Sylvain Tronchet.
L'élection présidentielle russe va se terminer ce soir comme elle avait commencé, en l'absence du principal intéressé. Vladimir Poutine a voté par voie électronique, il ne s'est même pas déplacé jusqu'à son bureau de vote. Rien n'est prévu ce soir pour fêter sa victoire annoncée. Il y aura probablement un meeting demain officiellement pour célébrer les 10 ans de l'annexion de la Crimée, où il devrait apparaître quelques minutes comme à son habitude. Le président russe ne cherche même pas à donner l'illusion du moindre suspense, lui qui a toujours considéré le processus électoral comme une bureaucratie coûteuse. Pour son ancien conseiller et scribe, Abbas Galiamov, aujourd'hui exilé en Israël, l'essentiel est ailleurs.
Ce que Poutine veut, il l'obtiendra. 70, 80, 90, voire 100%. En réalité, la question est de savoir dans quelle mesure on croira à ce résultat. Les électeurs à l'intérieur du pays, si les Ukrainiens y croiront. L'Europe y croira, l'Amérique y croira, les élites russes y croiront.
Si beaucoup de Russes n'ont guère d'illusions sur le fonctionnement de leur régime, y compris parmi les électeurs de Vladimir Poutine, beaucoup se sont également résignés ou persuadés que repartir avec le même dirigeant était probablement la moins pire des solutions. Beaucoup attendent de voir si cette élection passée, la politique du Kremlin s'infléchira sans savoir dans quel sens.
Et à l'autre bout de la planète, aux États-Unis, rien n'est joué en revanche entre Joe Biden et Donald Trump. Le duel va prendre fin le 5 novembre prochain pour la présidentielle, date la plus importante de l'histoire du pays, selon le candidat républicain qui promet une boucherie pour l'économie américaine s'il n'est pas élu face à Biden. Au Proche-Orient, alors qu'une première cargaison d'aide humanitaire est arrivée et a été déchargée hier à Gaza, et qu'un second navire se prépare à partir de Chypre, les espoirs d'une nouvelle trêve entre Israël et le Hamas sont ravivés. Les cabinets de guerre et de sécurité israéliens doivent se réunir aujourd'hui, convoqués par Benjamin Netanyahou, afin de déterminer la position de la délégation israélienne qui se rendra prochainement au Qatar pour tenter de négocier un échange d'otages contre des prisonniers palestiniens. Une position qui n'empêche pas le gouvernement de préparer son offensive sur Rafah au sud de l'enclave. L'OMS exhorte Israël à renoncer à un assaut sur la ville au nom de l'humanité. En France, la France Insoumise a officiellement lancé sa campagne hier pour les élections européennes avec sa convention de l'Union Populaire à Villepinte en Seine-Saint-Denis. À moins de 3 mois du scrutin, la liste menée par Manon Aubry, donnée autour de 8% des suffrages, tente de rassembler une gauche divisée en présence de Jean-Luc Mélenchon et de quelques ralliements venus notamment des écologistes. L'eurodéputé a cherché à convaincre les nostalgiques de la NUPES, Sophie Delpont.
Dans son discours, la tête de liste Manon Aubry lance un appel aux orphelins de la NUPES en se projetant sur la prochaine élection présidentielle.
Parce que soyez-en sûrs, l'après-Macron commence dès le 9 juin. Ce chemin, nous l'avons ouvert par les 22% de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, par la création de la NUPES.
Elle s'exprimait juste après Jean-Luc Mélenchon, qui a tenu son premier discours de candidat en position non éligible sur sa liste.
Alors ça commence aujourd'hui. Nous sommes là avec l'intention honnête, ouverte, démocratique, de gagner par la voie des urnes.
Cette présence du chef de file de la France Insoumise est un atout important, selon Arash Seydi, l'ancien coordinateur de Génération, le parti fondé par Benoît Hamon.
C'est le candidat de la gauche qui, depuis 2 élections, est le seul à dépasser 5%. Quand on dit qu'il faut un rassemblement, qu'il faut une union, qu'il faut tout le monde, c'est une figure importante de la vie politique française.
Pour l'eurodéputé Damien Carême, lui aussi colistier en position éligible, qui a récemment claqué la porte d'Europe Écologie Les Verts, la présence de Jean-Luc Mélenchon a un objectif pour les nostalgiques de la NUPES.
Pousser la liste. Il y aurait pu y avoir d'autres aussi personnalités, écologistes, communistes, socialistes sur la liste, pour la pousser, pour montrer que cette union. C'est Jean-Luc et voilà, bienvenue à Jean-Luc sur la liste.
Alors que pour l'instant, la liste insoumise est créditée de moins de 7% des intentions de vote, derrière deux autres listes à gauche, celle des socialistes et celle des écologistes.
Le temps aujourd'hui, pluvieux sur la moitié nord, gris au sud avec quelques rayons de soleil. Sur les Pyrénées, côté température, entre 14 et 18 au meilleur de la journée.